Antoine Robitaille. Il pourrait nous réciter la Constitution canadienne mot par mot. Mais il aime mieux animer son émission.
C'est l'heure d'accueillir nos amis du bureau parlementaire.
Go, go, go!
Bonjour Marc-André Gagnon.
Allô.
Bonjour Patrick Bellerose.
Bonjour Antoine.
Tous deux correspondants à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. On commence par toi Patrick. En cette période de crise, des négociations, les tribulations de la présidente de la FTQ Magali Picard à Dubaï ont fait jaser.
Écoute.
Et tu as jasé pas mal avec elle aujourd'hui.
Oui, j'ai fait deux entrevues. C'est rare qu'on fait deux entrevues pour écrire deux textes fondamentalement différents quand même. Je pense que tout le monde était surpris ce matin en se réveillant et en apprenant que la présidente de la FTQ, Magali Picard, était rendue à Dubaï
oui.
en pleine négociation pour renouveler les conventions collectives des employés de l'État. Madame Picard est à la tête du Front commun là, qui représente 420 000 travailleurs avec la FTQ et avec les autres syndicats. Écoute, on s'aperçoit qu'en fait qu'elle a pris l'avion en pleine nuit et qu'elle est rendue à la COP28 pour représenter la FTQ à ce grand événement. Alors, on l'appelle pour lui demander, Madame Picard, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites là-bas?
Qu'est-ce que vous faites là-bas?
Et là, elle se défend et elle explique, mais écoutez, il n'y a pas de grève cette semaine. Elle dit, évidemment, je ne serais pas parti s'il y avait des piquets de grève. Je vais être là, je vais être de retour pour les grèves qui sont annoncées, ce matin, là, qui recommencent le 8, du 8 au 14 décembre. Mais elle dit, entre-temps, ben écoute, l'environnement, c'est important. La FTQ, à chaque année depuis 2015...
C'est pour ça qu'il faut y aller en avion.
On est présent. Oui, ça, c'est toujours un paradoxe intéressant.
Rien de trop beau pour la classe ouvrière.
Toujours un paradoxe intéressant, en effet. Mais elle dit, donc, depuis 2015, on est toujours là. C'est important. Il faut représenter les droits des travailleurs dans la transition juste. Donc, s'assurer que la transition ne soit pas faite sur le dos des travailleurs. Et elle dit, écoutez, on a tout prévu. On va participer à la COP28 deux jours. Et la nuit, elle n'a pas dit le soir, elle a dit la nuit, je vais participer aux négociations via Teams. On le sait, évidemment, là, c'est pas la présidente de la FTQ qui est à la table de négo avec Mme Lebel là, à négocier chacun de leur côté. Ils ont des négociateurs.
On peut penser qu'elle est informée.
Exactement, évidemment. Bon, chapeau de tout ça. Donc, elle dit ça, ça va se faire en soirée ou de la nuit via Teams. Je vais être tenu au courant, j'ai des équipes et je vais pouvoir chapeauter tout ça. Et si jamais, parce que tu le sais, ça arrive souvent, le dernier grand soir, le M. Legault invite les chefs syndicaux dans ses bureaux, puis là, on négocie un dernier point ou demi-point de pourcentage pour réussir à faire passer l'entente. Si jamais ça se produit, elle dit, écoutez, je saute dans le prochain vol, demain, je suis là, et on va pouvoir négocier dans le bureau de M. Legault.
On peut l'écouter. Ça, c'était la première entrevue.
La première entrevue.
En matinée.
Je précise, vers 11h15.
Et advenant une décision, une invitation du PM. Et là, peut-être que ça va aider mon voyage à Dubaï. Peut-être que ça va y tenter d'en organiser une rapidement, étant donné que je suis à l'extérieur. Assurez-vous que je vais revenir la journée même.
Donc ça, c'était pendant la première entrevue. Patrick.
Exact, en matinée. Et là, donc, je la confronte un peu. Je dis, écoutez, vous savez, vous entendez déjà ce qu'on entend ici sur le terrain.
Oui.
Ça crée de la controverse. L'opinion publique risque de se retourner contre vous. Elle me dit, oui, écoutez, c'est la vie, c'est la politique. Je comprends, j'en suis consciente. La décision a été réfléchie. On n'a pas fait ça sur un coup de tête. Et donc, je suis prêt à l'assumer. Elle me dit, il n'y a aucun problème. Donc, j'écris mon texte, publie mon texte. 2h30 plus tard, on reçoit un courriel, Mme Picard revient au Québec dès demain matin, donc dès mercredi matin. Et donc, on la rappelle. Et là, elle nous explique, elle dit, bon, écoutez, j'ai pris la mesure de la controverse devant l'ampleur pour pas nuire aux syndiqués qui se battent pour avoir des meilleures conditions de travail. Écoutez, je rentre parce que là, vous voyez bien que c'était intenable. Écoute,
beaucoup de syndiqués nous ont écrit, moi en tout cas sur Twitter, là, il y en a beaucoup. Puis mon tweet de ce matin a explosé. Là. Il y a 28 000 vues, mon tweet.
Comme disaient certains caquistes avec les Kings, mauvais timing.
On appelle ça scorer dans son but, moi, je dirais.
Oui, c'est ça.
Donc,
exactement.
Ça ressemble quand même un petit peu, comme dit Marc-André, à la controverse des Kings d'il y a deux semaines.
Mais oui.
C'est un but non provoqué. C'est
Comment on dit au tennis? Une faute non provoquée,
Une faute
justement.
Non provoquée, exactement.
Ah oui, c'est ça. Unforced error. Donc, en anglais, c'est beau.
Donc, on rappelle Mme Picard pour qu'elle s'explique.
Ben oui.
Je crois qu'on peut écouter une partie de son explication.
Mais là, je vois, je comprends l'inquiétude, les commentaires. Et dans cette réalité-là, ben oui, j'ai décidé de revenir. Je pars pour l'aéroport maintenant. Donc, heureusement qu'on a des assurances annulation pour l'hôtel parce que j'ai pas touché à mon lit. Je suis arrivée ce matin, je repars ce soir. mais c'est ça. Ouais. Écoutez, j'apprends à vivre avec une vie plus publique, mais je persiste et signe. Je ne crois pas que c'était une erreur. Mais en même temps, je me dois de respecter là et d'écouter les commentaires des gens qui semblent avoir une inquiétude du fait que je ne sois pas à Montréal.
Donc, Madame Picard revient. Écoute, pour la petite histoire, c'est 14 heures de vol. Donc, elle a fait le 14 heures de vol dans la nuit d'hier. Elle le refait présentement, j'imagine. Elle va atterrir à Montréal vers 6h30 demain matin. Physiquement, ça doit être quelque chose quand même.
Oui.
Ça doit être taxant. Et ce qui est le plus drôle...
C'est un complot de la CAQ pour la ramollir aux tables.
Ce qui est le plus drôle, c'est qu'elle m'a dit, en toute transparence, elle dit, écoute, la prochaine semaine, là, pour ce qui est des négos, là, ça ne change rien. Mes rencontres que je devais faire sur Teams, je vais les faire sur Teams quand même à partir de Montréal.
Ah oui.
Elle dit, ça ne changera absolument rien de ce côté-là. Tantôt, j'écoutais Mario Dumont qui faisait une petite intervention à LCN.
Oui.
Et il a dit un truc que je trouvais quand même fort intéressant. Il a dit, ça démontre quand même qu'il n'y a pas de mouvement aux tables de négociation. Si la présidente de la FTQ se sent à l'aise de partir pour une semaine... en sachant très bien qu'elle doit être là pour le grand soir, pour signer pour le dernier droit. Là, on voit qu'elle ne s'attend pas à ce qu'on ait réglé dans la prochaine semaine.
Mm-hmm.
Et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on sent dans les corridors aussi, ici à l'Assemblée nationale. On ne sent pas l'urgence, on ne sent pas la panique quand il y a 40 % des écoles qui sont en grève, que les enfants sont à la maison, que les parents doivent jongler avec des enfants à la maison.
On devrait le sentir, mais...
Ben, écoute, Bernard Drinville, tantôt, nous
on
disait...
On peut revirer ça puis dire, Mme Picard, à Dubaï, ça ne sentait pas l'urgence de régler non plus.
Non,
hein?
Ça ne sent pas l'urgence d'un côté comme de l'autre.
C'est ça.
Mais ce que je dis, c'est... tantôt, Bernard Drinville, par exemple, nous disait, ben, peut-être qu'on va devoir reprendre des journées qui ont été perdues en raison de la grève. Ça, c'est une chose. Mais il n'est pas encore certain de devoir les reprendre parce qu'il dit, on a encore du temps, on a encore le temps de voir est-ce qu'on a perdu trop de journées ou est-ce qu'on peut encore compenser. Mme Lebel, de son côté, dit, on prévoit... toujours une entente d'ici la fin de l'année. Fin de l'année, c'est encore un mois, un bon mois quand même. C'est pas les deux semaines qui restent à la session ici parlementaire. Donc, on sent pas l'urgence de régler quand même. Mais je pense que ça va venir assez rapidement parce que je pense que les parents vont se tanner rapidement.
Je me tourne vers Marc-André Gagnon maintenant. Le projet Zombie, le projet du troisième lien qui a connu une autre version aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Moi, oui. Tu sais qu'à quel point j'aime ce projet en général, mais là, oh mon Dieu!
Ouais. Donc, François Legault, il faut se rappeler qu'au lendemain de sa défaite crève-cœur Jean Talon, a réanimé donc la possibilité d'un troisième lien routier. Et deux ingénieurs, ce matin, dans une lettre ouverte, proposent un nouveau tracé dont on n'avait jamais entendu parler. Donc, le premier, Bruno Massicotte, a signé en 2016 une étude de faisabilité sur un troisième lien sous-fluvial entre Québec et Lévis. Ça, c'était à l'ouest de l'île d'Orléans. Et son collègue, Daniel Toutan, qui est à la retraite, lui, a notamment été responsable du projet de pont de l'autoroute 25. Alors ça, c'est pour les positionner. Bon, tu sais, t'as montré qu'il s'agit quand même de deux ingénieurs qui ont une crédibilité et tout.
Mm-hmm.
Donc, ce qu'il propose, c'est de construire, en guise de troisième lien, donc un pont entre Lévis et Québec qui passerait donc du boulevard Champlain du côté de Québec jusqu'au chemin des îles du côté de Lévis, donc dans le secteur de la raffinerie Jean-Gaulin à Lévis. Si vous passez sur l'autoroute 20 à la hauteur de Lévis, vous ne pouvez pas manquer cette raffinerie. Donc, c'est dans ce coin-là. Et pour bonifier donc cet ouvrage-là, il est aussi question dans leur proposition d'un tunnel foré qui traverserait la colline pour donc passer du boulevard Champlain et se rendre jusqu'à l'autoroute.
Comme le tunnel ferroviaire qui existe déjà, qui part au bas de la côte Gilmore.
Il y a effectivement un tunnel ferroviaire qui passe sous la colline, c'est vrai.
Mais donc, vu qu'il est encore utilisé,
par les trains, et là, ce serait pas précisément au même endroit non plus. Donc, on parle vraiment d'un nouveau tunnel foré. Donc, tout ça, sur le plan de la faisabilité, selon les ingénieurs, c'est, on va dire, simple. Ça semble plus simple, en tout cas, que le méga-tube que la CAQ nous avait présenté dans les dernières années et que le bitube, ensuite, qu'on nous avait servi. Or, Antoine, il semble que cette idée de nouveaux liens routiers est déjà de l'eau dans le gaz. Puisque je leur ai fait remarquer, en fait, je leur ai appris...
À cause de toi?
Ouais, c'est de ma faute. C'est de ma faute, je l'assume. Que donc, ce fameux pont, en débouchant près du chemin des îles à Lévis, déboucherait là où il y a des terres agricoles, mais qui appartiennent à pas n'importe qui appartiennent au gouvernement fédéral. Ooh. Donc et d'ailleurs dans leur lettre ouverte, ils font référence au fait que les piliers du pont emprunteraient des terres agricoles. Donc ce sont des terres agricoles qui appartiennent au gouvernement fédéral qui est propriétaire de la ferme Chappet. L'histoire de la ferme Chappet, c'est vraiment intéressant. Écoute, on parle d'une superficie qui couvre 40 hectares. Donc c'est la moitié de celle des plaines d'Abraham.
Aïe.
De 1914 à 1982, c'est un site qui a été utilisé comme station de quarantaine animale, un peu comme Grosse-Île.
OK.
Et par avant, cette quarantaine-là était dans l'un des trois forts qui a servi au système de défense des Britanniques et tout. Mais donc, il y avait une quarantaine animale. Et ensuite, de 1982 jusqu'en 2014, Ottawa l'a utilisé comme ferme expérimentale. En 2014, Ottawa ferme ce site-là, cette ferme.
Ferme la ferme.
Et la ville de Lévis, depuis, a tenté de convaincre, mais sans succès, le gouvernement fédéral de lui céder les terrains, puisque la ville aimerait, entre autres, en faire un grand parc pour que les citoyens puissent y accéder. Mais donc, je reviens au fait que les deux ingénieurs ignoraient ce fait-là.
Et tu devines...
C'est un détail qui est important.
C'est pas un détail.
Parce que le gouvernement fédéral, on le sait, n'est pas nécessairement chaud à l'idée d'un troisième lien routier. D'ailleurs, Jean-Yves Duclos a été questionné sur cette possibilité de ce scénario de troisième lien. Et rapidement, M. Duclos a dit que, de son côté, la priorité est davantage celle d'investir dans un projet de réseau structurant. Donc, tout ça pour dire que la collaboration du gouvernement fédéral est vraiment loin d'être acquise. Alors, disons que ça met déjà en péril cette possibilité. Par contre, s'il y a un changement de gouvernement à Ottawa, peut-être que les choses seraient très, très différentes. Je ne suis pas en train de dire que je milite pour un scénario ou un autre, mais on sait que les
un gouvernement poilièvre serait plus intéressé.
Un gouvernement conservateur
serait plus intéressé. Puis on va voir ce que dans 6 mois aussi va dire...
Probablement, mais ils n'ont pas encore répondu.
La Caisse de dépôt. Qu'est-ce que la Caisse de dépôt va dire dans 6 mois aussi?
Sur
la connexion interrive.
Exact, parce que là, la Caisse de dépôt et placement du Québec, c'est des PQ infra. On sait, le projet de tramway a été mis sur pause pendant 6 mois. Va se pencher aussi sur un troisième lien. D'ailleurs, les ministres du gouvernement Legault aujourd'hui n'ont pas voulu réagir à la proposition des deux ingénieurs, justement en disant « Attendons de voir ce que la CDPQ infra va nous suggérer. » Mais il y a quand même Martine Biron, la députée et ministre caquiste des Chutes de la Chaudière, qui a dit qu'elle trouvait l'idée intéressante. Elle a fait valoir la grande crédibilité de ces deux ingénieurs et elle s'attend à ce qu'il y ait d'autres propositions qui sortent publiquement.
Elle plaide elle-même depuis des mois ou même des années
pour un lien de remplacement.
Un lien de remplacement, c'est l'expression qu'elle utilise.
Et elle l'a rappelé ce matin en disant que, je la cite, là, les deux ponts, à un moment donné, ils ont des limites, ils commencent à être vieux, alors il faut quand même penser à l'avenir, c'est ce que font les deux ingénieurs. Mais ils n'avaient pas pensé au fait que les terres en question appartiennent au gouvernement fédéral. Et il n'est pas dit que si le gouvernement du Québec devait se tourner vers ce scénario-là, qu'il obtiendrait la collaboration d'Ottawa. À moins qu'il y ait un changement de gouvernement. Puis encore là, ça a le temps de faire vraiment débat dans la sphère publique. Il y a notamment des groupes comme le JIRAM, du côté de Lévis, qui militaient là, encore cette année pour qu'on installe sur les terres de la ferme Chappet une espèce d'arboretum, comme celui qu'il y a, disons, au domaine de Mézeray à Québec, à d'autres endroits.
Au bois de Coulonges aussi. Moi, ce que je trouve quand on parle des ponts, c'est qu'il n'y a pas un choc qui dit il faudrait les entretenir comme il faut. Il faudrait commencer par ça.
Ça serait pas un pont, Antoine?
Mais on dirait que non. On dirait que non, que ça a une durée de vie utile. Tu sais, à Montréal, on a complètement refait le pont Jacques-Cartier il y a quelques années. Tout le tablier.
Le Champlain était... changé. On a fait un nouveau pont.
Oui, mais le pont
de
Samuel Le Champlain, il y avait un problème structurel, je veux dire.
Non, mais je veux dire,
dans son code génétique, c'était problématique.
Même si on peut remplacer un pont en faisant un nouveau côte à côte,
puis ouais.
Démolissant le vieux par la suite, là, ça se fait.
Mais c'est pas si simple. Tu sais, encore là, si le jour où on démolit le pont Pierre Laporte, ben, on pourrait difficilement le faire, disons, à l'ouest, puisque
ça serait difficile.
Il y a des constructions qui sont en train d'émerger, des projets de tours de presque gratte-ciel dans ce secteur-là. Après, il y a toujours la question patrimoniale du pont de Québec qui est en jeu. Mais l'enjeu de la sécurité est au cœur de la réflexion qui est amenée aujourd'hui.
Ah oui, ça, c'est le nouvel argument clé.
Les ingénieurs, puisque les camions qui transportent des marchandises dangereuses peuvent uniquement emprunter le pont Pierre Laporte. Alors, eux, ils plaident pour l'ajout d'un nouveau lien routier pour que ça donne une option supplémentaire.
Merci beaucoup, Marc-André Gagnon.
Ça fait plaisir.
Merci beaucoup, Patrick Bellerose.
Merci.
Je rappelle que vous êtes tous les deux correspondants parlementaires à l'Assemblée nationale pour Le Journal et Le Journal. Et c'est ainsi que se termine La Hausse sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage, mais il y a aussi le bouche à oreille. Et je vous dis à demain.
Cube Radio.